Nous allons poursuivre ce soir avec un sujet intitulé « Le rendez-vous de Jésus ». Le sujet de ce soir est intitulé « Le rendez-vous de Jésus », « Le rendez-vous du Créateur ». La Bible nous fait savoir d'une manière claire et détaillée que Dieu nous donne un rendez-vous, que notre Créateur nous donne un rendez-vous. Mais vous êtes bien d'accord que le Créateur, c'est Jésus-Christ lui-même, car à plusieurs reprises dans la Bible, il est dit que Jésus est notre Créateur. Le Créateur nous donne un rendez-vous. Découvrons ce rendez-vous que Dieu nous donne. Dieu nous donne un rendez-vous. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce rendez-vous, qui ne vont pas à ce rendez-vous, ou qui vont à ce rendez-vous le lendemain du rendez-vous. Mais si on va à un rendez-vous le lendemain du rendez-vous, il est sûr qu'on aura un léger problème. Regardez le rendez-vous que Dieu nous donne, le rendez-vous du Créateur. Vous le trouvez dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 2 et verset 3. Le rendez-vous du Créateur. Dans le livre de la Genèse, verset 2 et verset 3. Chapitre 2, verset 2 et verset 3. Lisons ensemble. La Bible dit, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Ensuite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Qui c'est qui se repose, mes amis? J'aimerais que nous soyons au clair. Qui c'est qui se repose le septième jour? C'est Dieu. Relisons pour que ça soit clair. Parce qu'il faut que ça soit clair que le rendez-vous qui est là, ce n'est pas le rendez-vous des Juifs, ce n'est pas le rendez-vous des Adventistes, c'est le rendez-vous de Dieu. Relisons pour que ça soit clair. Quel personnage est mentionné dans ce verset? Un seul personnage est mentionné. Il n'est pas parlé d'Adam. Il n'est pas parlé d'Ève. Une seule personne est mentionnée dans ce verset. Cette personne, c'est Dieu. La Bible dit, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. » Pardon. Ensuite, « Et il c'est qui ? C'est Dieu. Et Dieu, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Verset 3, la Bible dit encore, « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Voici dans la Bible, chers amis, la première mention du sabbat comme étant un jour de repos. Lorsque le sabbat est mentionné dans la Bible, le septième jour de la semaine, comme étant un jour de repos, ce n'est ni le repos d'Adam, ni le repos d'Ève, ni le repos des Juifs, parce qu'à ce moment-là, les Juifs n'existaient même pas, et c'est encore moins le repos des Adventistes, parce qu'à ce moment-là, l'Église Adventiste n'existait pas. Le repos, c'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. Et Dieu invite dans son repos Adam et Ève. Le sabbat, c'est plus qu'un commandement. C'est un rendez-vous que Dieu donne. Le sabbat, c'est un jour que Dieu a sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Si vous lisez dans d'autres Bibles, voici l'explication que, par exemple, vous trouvez dans la Bible du Semeur. Voici comment est traduit Genèse 2, verset 3, dans la Bible du Semeur. « Il bénit le septième jour, il en fit un jour qu'il lui est réservé. » Le septième jour, c'est un jour sanctifié. Un jour sanctifié, c'est un jour réservé. Réservé par qui? Qui a fait la réservation? C'est Dieu. Et Dieu a fait une réservation pour lui-même. Le sabbat, c'est Dieu qui dit, je me réserve ce jour. Je me mets ce jour à part. Ce jour, il n'est pas pour Adam, il n'est pas pour Ève. Ce jour, il est pour moi. C'est mon jour, je me réserve ce jour. Et donc, le sabbat, c'est le jour de Dieu. Mais comme Dieu, c'est le Dieu du partage, Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, dans mon jour qui est à moi, mon jour qui est mon jour de repos, j'invite Adam à venir. Donc, le sabbat, c'est un rendez-vous que le Créateur donne à la créature. Le sabbat, c'est un partage que Dieu fait avec sa créature. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre du Lévitique, en parlant du sabbat, on travaillera 6 jours. Lévitique 23 au verset 3. Lévitique, donc Genèse, Exode, Lévitique, 3e livre de la Bible. Lévitique 23 au verset 3. Alors je rappelle que si quelque chose vous a échappé, vous pouvez réécouter la conférence et si vous voulez avoir un résumé sur papier, vous allez nous donner une adresse et vous recevrez le résumé papier. Tout ce qui est dit vous sera résumé. Mais prenez note quand même, mais notez que si quelque chose vous échappe, nous sommes prêts à vous redonner tout. Lisons. Lévitique 23, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Et lisez la suite. Il y aura quoi, le sabbat? Qu'est-ce qu'il y aura le sabbat? Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Mes amis, je vous en supplie. Regardez bien ce verset et regardez bien ce que Dieu dit. Dieu dit que le sabbat, c'est un jour de convocation. Une convocation, c'est une invitation avec une insistance. Le sabbat, ce n'est pas un commandement simplement, c'est plus qu'un commandement. Le sabbat, c'est une invitation de Dieu. Dieu invite l'homme à entrer dans son repos. Mais regardez bien ce qui est dit à la fin de la phrase. À la fin de la phrase, il est dit que le sabbat se passera où? À la fin de la phrase. Le sabbat se passe où? Dites-le-moi, à la fin de la phrase. Dans toutes vos demeures. Mais même si le sabbat se passe dans la demeure de l'homme, c'est le sabbat de qui? De l'Éternel. Vous avez noté, je relis. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Autrement dit, même si le sabbat se déroule chez l'homme, ce n'est pas le sabbat de l'homme, c'est le sabbat de Dieu. Par conséquent, mes amis, rejeter le sabbat, c'est plus grave que rejeter un commandement. Parce que le sabbat, c'est un rendez-vous d'amour que Dieu donne à sa créature. Dieu dit à ses créatures, le sabbat, moi, je ne crée pas. Le sabbat, je me repose. Je m'assieds et je discute avec vous. Je m'assieds et je partage avec vous. Et Dieu dit à l'homme, écoute, viens dans mon repos. Viens dans mon sabbat. Je t'invite à passer du temps agréable avec moi. Et l'homme répond, Seigneur, je viens. Et comme Dieu ne veut pas que nous puissions oublier ce rendez-vous, Dieu a donné un commandement. Mais notez une chose extraordinaire. Le commandement du sabbat commence par « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Vous trouvez ça dans le livre de l'Exode au chapitre 20. C'est là qu'il y a les 10 commandements. Exode 20, vous avez les 10 commandements. Mais quand vous arrivez au commandement du sabbat, Le commandement du sabbat commence par « Souviens-toi ». Mes amis, qu'est-ce que, quand vous dites à quelqu'un « Souviens-toi », c'est en général que vous lui donnez un rendez-vous. C'est en général que vous lui donnez une rencontre. Tu lui dis, mardi, nous allons passer debout ça là. Ça, c'est quand il est arrivé que vous lui dites ça. Mais comme vous savez qu'il va peut-être oublier la débroussailleuse pour mardi, parce que si c'était, vous lui aviez dit, mardi, vini nous allons manger un poule grillé, vous n'auriez pas eu besoin de lui rappeler ça. Non, il se serait souvenu. Mais si vous lui dites dimanche, mardi, nous passons la débroussailleuse, quand il part de chez vous le dimanche, qu'est-ce que vous lui dites? Ah, vous dites ça avec tellement de conviction, j'ai l'impression qu'on vous a souvent oublié. Quand la personne part, vous lui dites, pas oublier mardi, nous allons passer débroussailleuse là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence par « Souviens-toi, pas oublier », c'est qu'on est en train de dire à la personne « Nous avons un rendez-vous important, ne l'oublie pas ». Donc le sabbat, mes amis, vous êtes bien d'accord que le sabbat c'est plus qu'un commandement. C'est plus beau qu'un commandement. Le sabbat c'est une invitation, c'est un rendez-vous d'amour, c'est un moment pour rencontrer Dieu et partager avec Dieu. Mais alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette invitation que Dieu donne, elle n'est pas seulement pour Adam et Ève. Il y a des personnes qui disent, cette invitation, c'est pour les Juifs. Mais la Bible dit que cette invitation n'est ni pour Adam et Ève seulement, ni pour les Juifs seulement, que cette invitation, elle est valable pour tous les hommes. Une seule personne qui est dispensé du commandement du sabbat, c'est si tu considères que tu n'es pas un homme. Si tu considères que tu n'es pas un humain, tu es dispensé. Mais tant que tu considères que tu es un humain, tu n'es pas dispensé. Prenez vos Bibles avec moi et regardez comment Dieu exprime cette pensée. La pensée que le sabbat concerne tout le monde. La première personne qui était invitée, c'était Adam. D'ailleurs, ça se passe comme ça souvent pour les mariages, hein. Ne vous mariez pas ni en juillet ni en août. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous vous mariez en juillet ou en août, vous invitez une personne, mais il a toujours des gens en vacances chez lui. Nous sommes aux Antilles, je vous rappelle ça. Et pendant le mois de juillet et août, eh bien, les cousins, les Parisiens débarquent. Alors, vous vous mariez, vous invitez 20 personnes, mais vous vous retrouvez avec 200. Pourquoi? Parce que celui que vous avez invité, il a tonton, tati, cousin, cousine à la maison, il ramène tout ça pour vous. Eh bien, c'est la même chose. La première personne qui a été invitée, c'était Adam et Ève. Mais Dieu dit à Adam et Ève, l'invitation, ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour vous, mais c'est pour tous les hommes, c'est pour tous vos descendants. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 56, verset 1er. Ésaïe, chapitre 56, au verset 1er. La Bible dit que le commandement, l'invitation, c'est pour tous. Et nous lisons cela à partir du chapitre 56 d'Ésaïe, verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? La Bible parle et elle dit, « Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. » Et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place, un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom comment ? Éternel, qui ne périra pas. Et verset 6, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Qui est invité au sabbat dans ce passage? Tous les hommes. Tous les hommes, qu'ils soient eunuques, qu'ils soient juifs, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient païens, qu'ils soient martiniquais, tous les hommes sont invités à entrer dans le repos de l'Éternel. Et mes amis, le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il y a un personnage célèbre, un personnage remarquable qui nous donne l'exemple. L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient de l'homme par excellence. L'exemple vient de Jésus. Parce que, mes amis, Jésus est un homme universel. Parce que si vous me dites que le sabbat, c'est pour les Juifs, parce que le commandement, l'étape de la loi avait été donnée à Moïse, et Moïse était un Juif. Si vous me dites ça, je vous dis c'est bien, à condition que vous dites aussi que Jésus, c'est pour les Juifs. Parce que si l'étape de la loi ont été données à Moïse, qui était juif, et on dit, le commandement, c'est pour les Juifs, c'est à des Juifs qu'on a donné ça, il faut aussi dire que Jésus, c'est pour les Juifs. Parce que dites-moi, Jésus, il a grandi dans quel pays? Jésus était de quelle nationalité? Il était quoi? Juif. Donc, par conséquent, si les commandements sont seulement pour les Juifs, Jésus est seulement pour les Juifs. Donc, nous pouvons tous partir d'ici. Nous n'avons pas à être chrétiens puisque Jésus est pour les Juifs. Non, mes amis, c'est vrai que les tables de la loi ont été données à Moïse, au peuple juif. Mais vous constatez que le sabbat existe depuis le jardin d'Éden. De la même manière, Jésus est né parmi le peuple juif, mais Jésus n'a pas commencé à exister parmi le peuple juif. Jésus a existé d'éternité en éternité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait le sabbat? Est-ce qu'il répondait au rendez-vous ou pas? Est-ce que Jésus allait au rendez-vous ou pas? Regardez ce que la Bible dit. Et là, je vous demande à partir de maintenant de vous concentrer, parce que nous allons lire des choses vraiment intéressantes. Regardez ce que la Bible dit concernant Jésus. Luc chapitre 4, verset 16. La Bible parle de Jésus et dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. » Vous êtes bien d'accord que le personnage célèbre qui a été élevé à Nazareth, c'est Jésus. Donc Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus n'est pas allé dans la synagogue pour faire le plombier, ni pour faire le maçon, ni pour poser des carreaux. Quand Jésus va dans la synagogue le jour du sabbat, c'est pour participer au culte, c'est pour adorer, c'est pour lire la parole de Dieu. Mais vous notez, la Bible dit que Jésus est allé dans la synagogue selon sa coutume. Mais il faut qu'on éclaircisse cette phrase. Quand la Bible parle de Jésus et que la Bible dit selon sa coutume, la coutume de Jésus, ce n'est pas la coutume des Juifs, c'est la coutume de Jésus. Regardez la preuve. Lisez avec moi. La Bible dit un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, la Bible dit, au 22 plutôt, Luc 22, 39. Regardez ce que la Bible dit ici. Après être sorti, Jésus, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivaient. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une coutume juive pour qu'un homme aille à la montagne des Oliviers? Il n'y a pas de coutume juive pour ça. Cette coutume, c'est la coutume de Jésus. C'est quoi cette coutume? C'est que Jésus avait tout le temps et tout le temps des personnes autour de lui. Chaque fois que Jésus était en quelque part, des gens venaient, il devait guérir, il devait enseigner, il était tout le temps dérangé. Mais de temps en temps, Jésus avait besoin de prier. De temps en temps, il avait besoin d'un moment de calme. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il avait besoin de calme, il montait sur la montagne et là, avec ses disciples, il pouvait prier et discuter avec eux tranquillement. Donc quand on dit Jésus monta sur la montagne selon sa coutume, ça veut dire que selon l'habitude qu'il avait développée, Jésus monta sur la montagne avec ses disciples. La coutume ici, ce n'est pas une coutume juive, c'est la coutume de Jésus. Regardez une autre preuve. Dans l'évangile de Marc, cette fois-ci, la Bible dit, la foule, Marc 10, verset 1, Marc 10, verset 1, la Bible dit, la foule s'assembla de nouveau près de lui. Et qu'est-ce que vous lisez? Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner, donc à enseigner la foule. Ici, nous sommes face à une autre habitude de Jésus. Jésus avait l'habitude, quand les gens venaient à lui, il avait l'habitude de les enseigner. Autrement dit, le sabbat n'est pas une coutume juive, mais une coutume chrétienne. Est-ce que nous pouvons répéter cela ensemble? Le sabbat n'est pas une coutume juive, mais une coutume chrétienne. Le sabbat, ce n'est pas seulement la coutume des juifs, c'est la coutume de Jésus. Parce que la Bible dit, selon son habitude, Jésus allait à la synagogue pour adorer. Selon son habitude, il allait sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Selon sa coutume, selon son habitude, il enseignait la foule qui venait à lui. Vous êtes bien d'accord que ce ne sont pas des coutumes juives, ça. Ce sont des coutumes du Christ. Par conséquent, mes amis, si vous observez le sabbat, vous n'observez pas une coutume juive, vous observez une coutume chrétienne, une coutume du Christ. Celui qui observe le sabbat, il fait comme Jésus, il entre dans la coutume de Jésus, il adopte les habitudes de Jésus. Mais dites-moi, est-ce que vous priez en tant que chrétien? Est-ce que vous priez? Oui. Est-ce que vous pensez que prier, c'est une coutume juive? Comment? Non. Mais alors, pourquoi on dit Jésus montait sur la montagne selon sa coutume pour prier? Et pourquoi on ne dit pas Jésus faisait ça parce qu'il était juif? Et comme c'est la coutume des juifs de prier, donc Jésus priait comme bon juif qu'il était. Non, on ne dit pas ça. On dit que Jésus priait, donc je prie. La Bible dit aussi que Jésus, selon sa coutume, il enseignait les gens qui venaient à lui. Et pourquoi on ne dit pas enseigner la Bible, c'est une coutume juive? Parce que Jésus était juif et il enseignait la Bible comme un bon juif. Mais ça, c'est une coutume juive. Je ne le fais pas. Mes amis, pourquoi est-ce qu'on garde toutes les autres coutumes de Jésus et la coutume d'observer le sabbat? Pourquoi nous voulons le rejeter? Dites-le-moi. Parce que prier, c'est Jésus qui nous montre. Est-ce que ce n'est pas les apôtres qui ont dit à Jésus un jour, « Enseigne-nous à prier. » Pourquoi est-ce que nous voulons toutes les autres coutumes de Jésus? Prier, lire la parole, et puis la coutume qu'il avait aussi d'observer le sabbat, nous disons non, c'est pas pour nous. Mais si nous saucissonnons Jésus, il y a un problème. Il faut prendre Jésus dans son ensemble. Et mes amis, lorsque nous entrons dans le sabbat, nous n'entrons pas dans un commandement. Nous entrons dans un rendez-vous d'amour. Nous entrons dans un rendez-vous où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrer dans le sabbat, c'est répondre à l'invitation de Dieu. Mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose ce soir. Qui c'est qui donne le rendez-vous? C'est le médecin ou le patient? Quand vous avez besoin de rendez-vous chez votre médecin, vous appelez et vous lui dites, docteur, je viens demain à 3 heures. Sois présent. C'est comme ça que ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on appelle chez un médecin pour un rendez-vous? Allô, docteur, je ne suis pas bien. Quand est-ce que vous pouvez me recevoir? Et le docteur répond en feuilletant son agenda, je vous reçois mercredi à 18 heures. Qui donne le rendez-vous? C'est le médecin, ce n'est pas le malade. Qui est le malade? C'est Jésus ou c'est moi? C'est moi le malade. Jésus, c'est le médecin. Par conséquent, mes amis, aujourd'hui, il y a des gens qui vont même jusqu'à dire, je suis d'accord sur le principe du sabbat, mais je ne suis pas d'accord sur le jour. Je prends le jour que je peux. Je prends le jour que ma grand-mère m'a donné. Je prends le jour que mon pasteur m'a donné. Je prends le jour que la majorité a donné. Mais qui c'est qui fixe le rendez-vous? C'est Dieu qui fixe le rendez-vous. Parce que le rendez-vous, c'est le rendez-vous de Dieu. Le jour, c'est le jour de Dieu. Le sabbat, c'est le sabbat de Dieu. Nous ne pouvons pas, si le médecin a donné rendez-vous mercredi à 4 heures, nous présenter jeudi à 4 heures et puis dire, docteur, m'en vini à présent, c'est à présent où vous ouvrez moi. Non, Dieu te donne un rendez-vous, c'est lui qui te donne le jour. Et Dieu est précis sur le jour. Dieu est précis sur le jour. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de l'Exode au chapitre 16. Et regardons comment Dieu est précis sur le jour. Dieu a sanctifié le sabbat. Dieu s'est réservé ce jour. Dieu a mis ce jour à part. Dieu veut qu'on sache que ce jour est différent des autres. Dieu veut qu'on sache que ce n'est pas nous qui donnons le rendez-vous, ce n'est pas nous qui venons quand nous pouvons, mais c'est lui qui nous invite et c'est nous qui devons aller au jour où il nous invite. Regardez comment Dieu fait savoir quel est le bon jour. La Bible dit que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu les a libérés de l'Égypte. Et Dieu leur a dit, je vous emmène dans le pays promis. Mais pour aller dans le pays promis, ils traversent un désert. Et dans ce désert, il n'y a pas de supermarché. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de marché non plus. Il n'y avait rien à manger. Au bout, au début, ils sont partis avec des victuailles. Mais quand ils ont marché quelques jours, ils ont tout mangé. Ils n'avaient plus rien. Alors au bout d'un certain temps, ils disent, Seigneur, tu nous as emmenés pour mourir dans le désert alors. Il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a pas de fast-food. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas. J'ai un plan pour vous. Dieu a toujours un plan. Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner à manger, il va y avoir un pain qui va sortir du ciel et le pain va tomber sur la terre. Vous n'aurez qu'à ramasser et à manger. Regardez ce que la Bible dit. Exode 16, verset 21. La Bible dit, tous les matins, Exode 16, 21, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Verset 22. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. deux homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. La Bible dit au verset 24, le peuple, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de ver. Verset 25, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat aujourd'hui. Vous n'en trouverez point dans la campagne. Résumons-nous. Le peuple est dans le désert. Ils n'ont rien à manger. Ils se plaignent. Dieu s'occupe d'eux. Dieu leur donne à manger. Chaque jour, Dieu donne une quantité de manne, une quantité de nourriture pour chacun. Mais il y a un jour qui est différent. C'est quel jour qui est différent? Quel jour qui est différent? Ah non, avant le sabbat. Parce qu'avant le septième jour, il y a le sixième jour. Avant le septième jour, il y a le sixième jour. Le sixième jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a une quantité double. Mes amis, Dieu ne peut pas vous demander d'observer le sabbat sans vous bénir avant le sabbat pour que vous puissiez observer le sabbat. Tout ce que vous abandonnez pour observer le sabbat de l'Éternel, Dieu vous le donne le sixième jour. Si vous ne travaillez pas le septième jour parce que vous voulez honorer le sabbat de l'Éternel, ce que vous auriez dû gagner le septième jour, Dieu vous le donne déjà le sixième jour. C'est ainsi que le sixième jour, Dieu leur donne une quantité double de nourriture, une quantité double de manne qu'ils conservent pour le septième jour. Ils conservent cela pour le septième jour parce que le septième jour, Dieu ne va pas en donner. Lisez avec moi la suite. La Bible dit, verset 27, le septième jour, Exode 16, verset 27, le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent. Il y a toujours eu des têtus, hein? Il y a toujours eu des têtus. Dieu leur dit, mes amis, le septième jour, il n'y a pas de marché. Dieu dit, j'ai une boulangerie, je vous donne du pain. Mais Dieu dit, le septième jour, ma boulangerie est fermée. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de livraison le septième jour. Mais il y en a qui sont têtus quand même et qui viennent et qui frappent à la porte de la boulangerie qui disent, nous venons chercher un pain. Mais c'est incroyable comment nous sommes parfois têtus et incrédules. Et je dirais même plus, ceux qui sont venus le septième jour, ils sont têtus, ils sont incrédules, mais ils sont voraces. Vous savez pourquoi je dis qu'ils sont voraces? Parce que le sixième jour, qu'est-ce que Dieu leur avait donné le sixième jour? Dieu leur avait donné une double portion. Dieu leur avait donné de quoi manger le sixième jour et de quoi manger le septième jour. Le septième jour, quand ils se lèvent, ils ont à manger chez eux. Mais yo ka di ou pas, je ne savent. Mais quand ils gardent si un café en con réserve. Donc en quelque part, celui qui ne respecte pas le septième jour, il y a de l'incrédulité, il y a de l'insoumission, mais il y a aussi de la voracité pour essayer d'avoir toujours plus. Mais mes amis, quand on met Dieu de côté pour essayer d'avoir plus, on a toujours moins. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, Celui qui l'a bâti travaille en vain. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun malheur. Mes amis, on ne nous pas montrer qu'on nous trouve vorace. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu qui a tout ça au besoin pendant 6 jours pour ne pas mentir à rien. Personne n'a jamais été fidèle à Dieu et a manqué de quelque chose. Laissez-moi vous raconter une expérience. Une expérience qui m'a troublé, qui m'a marqué. C'était au début de mon ministère pastoral. Je visitais un frère sur la commune du Marigot, déjà âgé. Et je lui dis, frère, parle-moi un peu de ta rencontre avec Jésus. Il me raconte comment il a rencontré Jésus, comment on lui a parlé de Jésus et comment on lui a parlé du sabbat. Et il me dit, tu sais, quand j'ai entendu parler du sabbat, j'ai compris le sabbat, je travaillais dans une administration. J'ai dit, je ne peux pas venir le sabbat. Il travaillait dans une administration territoriale. Il dit, je ne peux pas venir le sabbat, je ne peux pas, j'observe le sabbat de l'Éternel. On lui a dit, si tu ne viens pas, on te licencie. Il m'a dit, je suis rentré, j'avais femme et enfant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a dit non, parce qu'il avait lu ce passage que nous venons de lire. Et il a dit, Seigneur, ton peuple était au désert, tu as nourri ton peuple. Ça, c'est mon désert, ça, c'est mon épreuve. Les gens veulent voir si je suis fidèle, je n'irai pas. Il n'est pas allé. Le lundi, quand il s'est amené au travail, on lui a dit, vous êtes licencié, on vous avait averti. Il est reparti licencié. Il a femme et enfant. Il rentre chez lui. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il rencontre un cousin à lui. Son cousin est ouvrier dans le bâtiment. Suivez bien. Il dit au cousin, j'ai besoin de travailler. L'autre lui dit, mais tu travailles dans une administration, une collectivité, tu veux venir travailler avec moi? Il dit, mais oui, j'ai été licencié. Pourquoi? À cause du samedi. Alors l'autre lui dit, tu es sûr de ce que tu fais? Oui, les gens m'ont licencié, j'ai besoin de travailler. Et là, l'autre lui dit, eh bien, demain, tu vas venir avec moi, je vais te présenter au patron, et si on a besoin de quelqu'un, on va t'embaucher. Et le cousin lui dit, qu'est-ce que tu sais faire dans le bâtiment? Il répond, rien. Alors, le cousin lui dit, où savent ces manœuvres que vous faites? Il dit, d'accord, c'est pas grave, c'est travail mon cousin, c'est l'argent mon cousin, mon baïch, moi manger. Alors, il va le lendemain, et c'était une grande entreprise. Le cousin le présente au patron. Et finalement, le patron l'embauche. Le patron l'embauche comme manœuvre. On l'embauche, on lui dit, ton salaire sera le salaire de manœuvre. Est-ce que tu acceptes? Il dit, mais oui, je n'ai pas le choix. Et il commence à travailler. Mais le patron, lui, il embauche des gens, il ne s'en occupe pas, il part. Et puis, à cette époque, on payait les gens par semaine. Donc, le jeudi, il y a une espèce de responsable qui passe, qui fait la tournée du chantier pour relever tous les employés qui sont là. Et lui, en tant que manœuvre, il travaille toujours à côté d'un ouvrier. Mais il se trouve qu'au moment où celui qui pointe devait passer, l'ouvrier lui donne une scie, une planche et lui dit, je reviens, coupe ça pour moi. Donc il est seul dans une pièce en train de couper une planche. L'homme qui pointe passe et lui dit, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Il donne son nom. Mais celui qui pointe, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit un ouvrier. Il voit un homme seul qui est en train de couper une planche et qui est dans une pièce seule en train de travailler. Il ne lui a pas demandé depuis combien de temps tu es là. Il ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu fais là. Il ne lui a pas demandé quoi que ce soit. Il lui a demandé seulement son nom. Alors, lui, bon, il ne s'inquiète pas. Et le vendredi, en fin de journée, on donne les salaires, on donne les enveloppes. Ah, il prend son enveloppe et quand il fait route avec son cousin, il ouvre son enveloppe. Et il dit au cousin, gars l'argent yo ba moi. Le cousin lui dit, mais yo ba l'argent en ouvrier comment? Mais comment yo paye au con ouvrier? Yo paye au con moi. Et il dit au cousin, mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, je ne sais pas. Et le cousin, en réfléchissant et en discutant avec lui, ils ont compris que Dieu s'est occupé de cet homme. Que Dieu a fait passer l'homme qui relevait le nom des ouvriers au moment où il était dans une position d'ouvrier. Et alors, vous savez qu'est-ce que le cousin lui a dit? Le cousin lui a dit, eh bien, si vous avez payé un ouvrier, il faut que très vite vous appreniez le travail qu'on ouvrier. Et vous savez, cet homme, il a pris sa retraite dans le bâtiment. Et Dieu l'a qualifié. Dieu lui a donné de l'intelligence. Il est devenu en très peu de temps un ouvrier autonome. Et le plus beau, c'est que le salaire qu'il a reçu, là, était plus gros que le salaire qu'il a perdu. Qu'est-ce que vous dites pour Dieu? Qu'est-ce que vous dites pour Dieu? Oui, mes amis. Toute personne qui se montre fidèle à Dieu, toute personne qui rentre dans le rendez-vous de Dieu, n'aie pas peur de ce que tu vas perdre, regarde plutôt ce que tu vas gagner. Oui, mes amis. Et nous pourrions raconter des tonnes d'expériences comme cela. Lorsqu'on est fidèle à Dieu, mes amis, lorsqu'on est attaché à Dieu, Dieu vous sauve, Dieu vous délivre, Dieu vous bénit, Dieu vous nourrit, Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous voulez une preuve biblique? Ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux, mes amis. Et lisez attentivement comment la Bible dit, quand l'homme est fidèle, Dieu le bénit, Dieu le sauve. Ouvrez vraiment vos yeux, mes amis. Je voudrais, mes amis, que nous puissions prendre le temps de bien, mais vraiment bien, lire ce qui va suivre. Ce qui va suivre se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14, verset 13 et verset 14. Ézéchiel, chapitre 14, verset 13 et verset 14. Que dit la Bible? C'est Dieu qui parle. Dieu parle au prophète Ézéchiel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Dieu lui dit, « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, sur ce pays, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes. » Vous avez compris ce que Dieu dit là? Dieu est en train de dire, imagine un pays qui se détourne de moi, un pays qui devient infidèle. Dieu dit, le pays qui se détourne de moi, si je lui envoie la famine, si je détruis tous les hommes et toutes les bêtes qui sont dans le pays, regardez ce que Dieu dit au verset 14. Dieu dit, si je détruis tous les hommes et toutes les bêtes et qu'il y ait au milieu de lui, au milieu de ce pays, ces trois hommes, qui sont ces trois hommes? Daniel, Noé et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu est en train de dire, si Noé, si Daniel, si Job habitent dans un pays et que le malheur vient sur ce pays, la famine vient sur ce pays, une catastrophe vient sur ce pays, tous les hommes du pays meurent. Dieu dit, si Noé, si Daniel, si Job habitent dans ce pays, ils vont sauver leur âme. Pourquoi? À cause de leur justice. Mais alors, mes amis, au milieu d'une catastrophe, Dieu dit, s'il y a Daniel, s'il y a Noé, s'il y a Job, je les sauve. Mais pourquoi est-ce que Dieu sauve Noé, Daniel et Job au milieu de n'importe quelle catastrophe? Pourquoi? Est-ce que Dieu les préfère? Est-ce que Dieu fait des préférences? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Mais pourquoi Dieu les sauve? Dites-moi pourquoi. Parce qu'ils sont fidèles. Parce qu'ils sont fidèles. Regardez comment la Bible dit cela. Regardez que c'est, la Bible dit que c'est la fidélité et la soumission à la parole de Dieu qui sauve. Regardez, dans Job, comment Job dit qu'il était? Quel genre d'homme il était? Et moi je te dis, si tu veux être sauvé à la fin des temps, si tu veux être sauvé quand des catastrophes vont venir sur le monde, si tu veux être sauvé quand les plaies s'abattront sur le monde, il faut que tu sois comme Job. Et comment Job était? Comment est-ce que Job était? Job dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis jamais détourné. Vous savez comment Job marchait? Trop vite. Vous savez comment Job marchait? Reviens, s'il te plaît. Merci. Vous savez comment Job marchait? Eh bien, Job regardait où Jésus a mis ses pieds. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu comme ça? Comment on appelle ce jeu-là? Comment? Oh, c'est la marelle, je ne sais pas. La marelle, c'est marcher dans une case. Mais le jeu consiste à voir. Quelqu'un qui marche, il laisse des traces de pas. Et moi, je le suis, je dois mettre mes pieds exactement dans les traces de pas qu'il a laissées. Eh bien, Job, c'est comme ça qu'il marchait sur la terre. Il disait, il faut que je sache où Jésus a mis les pieds. Et je mets les pieds là où Jésus a mis les pieds. C'est pourquoi, mes amis, quand on est chrétien, si on veut être sauvé à la fin des temps, on ne vit pas comme on veut. On ne marche pas comme on veut. On ne s'habille pas comme on veut. On ne mange pas comme on veut. On ne se distrait pas comme on veut. Mais on fait comme Jésus faisait. Quand je vais me choisir mes vêtements, je me pose la question. Si Jésus était là, est-ce qu'il t'a acheté modèle linge à mettre en l'air? Quand je vais choisir ma nourriture, je me pose la question. Si Jésus était là, est-ce que Jésus t'a acheté plate à la pour te manger? Quand je choisis mes divertissements, je me pose la question. Si Jésus était là, est-ce que Jésus se serait trouvé dans cet endroit avec moi? Et si ma réponse c'est non, je dis si Jésus ne va pas là, moi non plus je ne peux pas aller là. Parce que la Bible dit que Job, Dieu dit, quoi qu'il arrive, je sauve cet homme. Mais pourquoi Dieu le sauve? Simplement parce qu'il marchait dans les traces de pas de Jésus, parce qu'il faisait comme Jésus, il s'habillait comme Jésus, il suivait les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qu'il dit encore. Il dit au verset 12. Job 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est pas beau ça, mes amis? Est-ce que c'est pas beau ça, mes amis? Job dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Parce qu'aujourd'hui, quel est notre dilemme? Faire ce que je veux ou faire ce que Dieu veut. C'est comme un jour un homme m'a dit, je vais manger toute bagaille. Il m'a dit, non, pas manger toute bagaille. Ou quoi manger ça ou lait. Il dit, moi, non, je vais manger toute bagaille. Il m'a dit, mais je vais faire un fric assez rat bao. Est-ce que vous pouvez manger? Il m'a dit, non, je ne vais pas manger ça parce que je ne vais pas manger rat. Il m'a dit, mais où dit-moi qu'on va manger toute bagaille pour tout pas manger? Il dit, moi, mais non, mais rat, on ne peut pas manger rat. Il m'a dit, ah bon? Non, donc tu comprends que tu ne manges pas tout, tu manges ce que tu veux. Je lui ai dit, tu sais moi, je ne mange pas tout, je ne mange pas non plus ce que je veux, je mange ce que Dieu veut. Je fais plier ma volonté à la parole de Dieu. C'est ça, mes amis, le problème de l'homme. L'homme veut être Dieu, l'homme veut dominer sur Dieu, l'homme veut être plus grand que Dieu. C'est l'homme qui commande. C'est lui qui décide ce qu'il mange. C'est lui qui décide quel est le jour d'adoration. C'est lui qui décide combien de temps il donne à Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est la volonté de l'homme qui prime. Mais Job, la Bible dit, Dieu dit, je le sauve parmi les catastrophes. Mais pourquoi Dieu sauve Job? Parce que Job est un homme qui fait plier sa volonté aux paroles de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, quiconque veut être sauvé est une personne qui fait plier sa volonté devant la parole de Dieu. Moi, t'es habitué à faire ça. Moi, t'es qu'à penser c'est comme ça pour faire ça. Yo, apprendre moins c'était comme ça pour faire ça. Mais si on souhaite, je vais découvrir ce passage la parole de Dieu qui a dit, qui ça m'a fait le mon parti? Est-ce que je vais garder la volonté? Est-ce que je vais garder l'habitude? Est-ce que je vais garder la tradition? Ou bien je vais dire non, je vais plier la volonté et je vais faire la parole de mon Dieu monter. Oh mes amis, je vous invite à noter ce verset. Voici la qualité de l'homme que Dieu sauve. Voici les dispositions de l'homme que Dieu sauve. Dieu sauve l'homme qui fait plier sa volonté devant la parole de Dieu. Oh mes amis, il n'y a pas que nous avons mangé et puis nous aimons, petit goût à bon, nous aimons ça. Mais même parler, il faut que vous pliez parler devant la volonté de Dieu. Il faut que vous pliez parler devant la parole de Dieu. Et le problème de l'homme, c'est son insoumission. L'homme veut toujours dominer, diriger. Mais l'homme que Dieu sauve, c'est l'homme qui dit, je fais plier quoi? Ma volonté devant la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'homme parle, il est toujours en train de dire, je. Mais l'homme de Dieu, quand il parle, il dit, ainsi a parlé l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Je ferai ça parce que la parole de Dieu le dit. L'homme de Dieu n'est pas toujours dans le « je ». Il est toujours dans « il est écrit que ». Oh, mes amis, je vous en supplie ce soir. Ne repartons pas sans prendre la bonne décision. Même si nous avons 50 ans, même s'il y a 60 ans que tu observes une religion, même s'il y a 80 ans que tu observes une religion, que tu marches dans un jour, que tu adores Dieu dans un jour, mais ce soir, le Seigneur te dit, c'est pas le bon jour. Le Seigneur te dit, le bon jour, c'est le septième jour. Le Seigneur te dit, c'est pas toi qui me donne rendez-vous, c'est moi qui te donne rendez-vous. Le Seigneur te dit ce soir, fais plier ta volonté devant ma parole. Le Seigneur te dit, fais plier ta volonté devant ma parole. Et si tu fais ça, tu deviens comme Job. Et quand tu deviens comme Job, je te sauve au milieu des catastrophes. Je te sauve au milieu des calamités. Mes amis, les nous malades, les pas arrêter solution. Les nous en France et puis nous pas ça fait rien. Les nous besoin la monnaie. Les nous qu'a souffert. Qui ça nous qu'a fait, mes amis? Nous qu'a mettre nous à genoux et puis nous qu'a prier. Nous qu'a dit bon Dieu, fais bye bye moi. Nous qu'a demander bon Dieu grâce. Mais les bon Dieu qu'a dit, ou qu'a demander moi grâce, moi qu'a ba ou grâce. Mais moi, je vais avoir un rendez-vous. Je vais demander au Tibouin temps. Je vais demander pour adorer mon Tibouin. Qui ça nous a dit, bon Dieu? Non. Moi, je dois demander au bagage, mais où je dois demander à rien, bon Dieu? Peut-être que vous trouvez ça dur, ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça, mes amis. Nous faisons passer notre volonté, souvent, avant la parole, une tradition avant la parole. Mais ce soir, cette habitude est terminée. Ce soir, le Seigneur nous a parlé. Ce soir, le Seigneur nous a dit, l'homme que je sauve, c'est celui qui fait plier sa volonté devant ma parole. Ce soir, nous disons au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne ma volonté. J'abandonne mes traditions. J'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je dépose ma vie, je dépose mes habitudes, je veux changer, je ne veux plus marcher selon ma volonté, Seigneur. Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, Seigneur, je dépose tous mes fardeaux, mes soucis, mes angoisses, mais je dépose aussi mon orgueil, je dépose aussi mes craintes. Et je te dis, Seigneur, ce soir, fais plier ma volonté devant ta parole. Fais plier ma volonté devant ta parole. Et ne me permets pas de repartir d'ici, Seigneur, sans avoir pris le temps de te donner ma vie et de t'appartenir. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien.
Je m'en
Deuxième couple, s'il vous plaît. Oui, prends tout, Seigneur. Prends nos problèmes. Prends nos soucis. Prends nos angoisses. Prends nos péchés. Mais aussi, Seigneur, prends notre volonté. Ô Seigneur, ce soir, nous avons envie d'être débarrassés de notre péché. Nous avons envie que tu nous débarrasses de nos fardeaux. Nous avons envie que tu nous libères de nos tentations. Oh, nous ne voulons plus être tourmentés par cet esprit malin qui nous tourmente. Nous voulons être libres en Jésus. Mais nous savons que tu es un rédempteur. Et nous te disons, oui, prends tout, Seigneur. Prends nos fautes et envoie-nous ton Saint-Esprit, que nous soyons pardonnés, que nous soyons libérés. Mais nous voulons aussi te dire, Seigneur, que nous devons t'accepter non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Nous devons te soumettre notre volonté, ne pas marcher comme nous voulons, mais marcher comme Jésus a marché. Ne pas nous habiller comme nous voulons, mais nous habiller selon les principes que tu nous as donnés, pudeur, décence et modestie. Ne pas manger comme nous voulons, mais manger selon les règles sanitaires que tu nous as données. Ô Seigneur, ne pas nous livrer à la sexualité comme nous voulons, mais mettre notre sexualité dans le cadre que tu as prévu, le mariage. Ne pas, Seigneur, t'adorer dans le jour que nous voulons, mais t'adorer en ton saint jour, dans le jour que tu as mis à part, le septième jour qui est ton sabbat, ton jour de repos, ton rendez-vous d'amour que tu nous donnes. Ô Seigneur, fais plier notre volonté devant ta parole. Envoie-nous ce soir ton Saint-Esprit et brise notre résistance. Il y a ici ce soir, Seigneur, quelqu'un qui a entendu parler du sabbat pour la première fois. Ô, je t'en supplie, Seigneur, aide cette personne. En lui envoyant ton Saint-Esprit, aide cette personne à comprendre cette vérité et l'importance du sabbat dans la vie d'un chrétien. Car c'est le moyen de dire, je reconnais Dieu comme mon Créateur, comme mon Rédempteur, et j'entre en relation avec mon Dieu. Il y a ici aussi quelqu'un, Seigneur, qui a déjà entendu parler du sabbat plusieurs fois, qui lutte, qui résiste, qui ne veut pas se soumettre, qui dit oui, mais ce n'est pas grave, Dieu me comprendra. Mais ce soir, Seigneur, je t'en supplie, brise la volonté de cette personne. Brise sa résistance. Brise l'esprit malin qui lui donne ses idées négatives. Et permet que cette personne, enfin ce soir, se soumette à toi, puisse remettre les armes et puisse dire, je ne me bats plus contre le Seigneur, mais ce soir, j'accepte la vérité du sabbat et je veux, comme Jésus, je veux avoir la coutume d'aller à la synagogue chaque sabbat. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, renvoie-nous avec une mesure de bénédiction. Renvoie-nous avec ton esprit, qu'il continue à nous enseigner. Renvoie-nous avec la ferme intention de revenir demain soir. Renvoie-nous avec réflexion, car tu nous as parlé ce soir. Permets que ce soir, avant de nous endormir, que nous puissions prendre le temps de relire ta Bible. Permets que ce soir, en rentrant, nous ne puissions pas nous jeter devant la télé, mais que nous puissions nous jeter devant ta parole. Que nous puissions nous jeter à genoux et que nous puissions prier et dire, Seigneur, il y a peut-être encore en moi quelque chose qui va t'empêcher de me sauver. Mais Seigneur, je veux être comme Noé. Je veux être comme Daniel. Je veux être comme Job. Seigneur, arrache tout mal en moi et permets que je sois sauvé quand tu reviendras. Seigneur, bénis-nous et fais-nous du bien. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.